Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 8h17 et je suis avec Bertrand Piccard, président de Climate Impulse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là notamment parce que hier, vous avez fait sensation au Powered Earth Summit avec votre nouveau projet. Non content d'avoir parcouru la planète avec un ballon dirigeable, puis avec un avion solaire, vous voulez maintenant le faire avec un avion à hydrogène. Alors ça nous passionne ici parce qu'on croit à la transition énergétique, on croit à la décarbonation. Même si le monde recule, hein, au cours d'un dernier mois, on voit Shell hier qui annonçait qu'ils allaient finalement faire moins de RSE parce que les actionnaires veulent moins. On a vu beaucoup d'entreprises aussi qui commencent à se dire est-ce bien utile de le faire aussi vite dans la transition électrique automobile aussi. Les constructeurs qui ont longtemps traîné des pieds, là maintenant, sont parfois sur le frein. Heureusement qu'il y a des pionniers comme vous, Bertrand Piccard. Vous êtes là pour effectivement nous permettre d'espérer. Alors, un avion à hydrogène, est-ce que c'est vraiment possible ?
Écoutez, ce projet Climate Impulse, c'est mon coup de gueule contre le défaitisme. Je ne supporte plus les gens qui disent qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de solution, qu'il faut abandonner, ou bien qu'il faut tout détruire, décroître, arrêter tout ce qu'on fait, parce que ce sera un désastre social pour tous ceux qui ont déjà très peu. Donc, ce qu'il faut montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut faire mieux. Au lieu de détruire ce qui existe, on peut améliorer ce qui existe.
Et on peut faire mieux avec la recherche, les technologies et l'investissement.
Alors, pas simplement la recherche, parce que je comprends ceux qui disent la recherche, ça repousse à beaucoup plus loin l'action climatique qu'on devrait avoir aujourd'hui. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est utiliser des technologies qui existent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a trouvé 1600 solutions aujourd'hui avec la Fondation Solar Impulse. Mais il faut aller plus loin. Et puis, il faut prendre des secteurs très difficiles à décarboner comme l'aviation et montrer que c'est possible parce qu'aujourd'hui on a le choix, on peut interdire l'aviation puis on sera complètement isolé dans le monde parce qu'il n'y a personne d'autre sur la planète qui va nous suivre ou bien on va améliorer l'aviation et moi je crois à l'amélioration.
Alors est-ce que votre projet c'est pour quand ? D'abord ça fonctionne comment ? Parce que quand on reçoit des constructeurs aéronautiques qui réfléchissent aussi, ils disent c'est très compliqué d'avoir une pile à combustible dans un avion, de garder l'hydrogène à moins 253 degrés. Est-ce que vous allez y arriver, vous ?
Mais vous savez, tout est difficile. À l'époque où on voyageait en diligence, il y avait des bottes de foin pour les chevaux à chaque auberge, et puis on pensait que ce serait impossible d'avoir des stations d'essence pour des autobus. Ouais. Et puis ensuite, on s'est dit, on pourra pas avoir de téléphone portable parce qu'on peut pas mettre des antennes partout, puis on disait que c'était impossible d'aller sur la Lune. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer, c'est se remettre en question dans nos certitudes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec Raphaël Dinelli, qui est mon associé dans ce projet. C'est lui qui construit l'avion avec son équipe 49 Sud au Sable d'Olonne.
Sable d'Olonne, en Vendée, ouais.
Oui, ouais. Ça fait 3 ans que nous travaillons avec des soutiens d'Airbus, de Daher, de Ariane Group, pour trouver les solutions. Et si on a annoncé le projet, c'est qu'on pense qu'on va y arriver.
Et alors, donc, pour quand ? Quand est-ce qu'on vous voit voler dans cet avion à hydrogène ?
Après 2 ans de construction, maintenant, avec Syensqo, qui est notre grand partenaire technologique, on construit pendant 2 ans, on aura 2 ans de test, 2026-2027, et on espère faire le tour du monde sans escale, 9 jours, en 2028.
Sans escale, ça veut dire qu'il y aurait assez d'hydrogène liquide dans l'avion pour faire le tour du monde ?
C'est ça le défi. On construit cet avion autour des réservoirs. C'est pour ça que c'est un avion avec 2 fuselages et un petit cockpit au milieu.
Oui.
2 sièges dans l'avion, donc mieux que Solar Impulse. Et puis, toujours un petit peu d'hydrogène qui s'évapore dans ces réservoirs qui doivent être gardés à moins 253 degrés. Et puis, ce qui s'évapore, c'est ce qui passe dans la pile à combustible et qui permet d'alimenter des moteurs électriques.
Est-ce que vous, maintenant que vous avez commencé à beaucoup avancer sur ce projet-là, est-ce que vous vous dites, finalement, l'avenir de l'aérien, c'est peut-être plus l'hydrogène que le solaire ? Vous en êtes tous dans votre réflexion ?
Alors, le solaire, dans Solar Impulse, c'était très clairement un symbole. Moi, j'ai toujours dit qu'on n'était pas là pour transporter des passagers, mais pour transporter un message. Il faut se rappeler, quand j'ai lancé ce projet en 2002, le solaire était anecdotique. Il était 40 fois plus cher qu'aujourd'hui, et beaucoup de gens n'y croyaient pas. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est ce qu'on pouvait faire au maximum avec du solaire. Mais maintenant, il ne s'agit pas de faire un symbole. Il s'agit de faire un projet très concret, très rationnel. C'est pour ça que Airbus nous utilise un petit peu comme le banc d'essai qui permettra leur avion à hydrogène pour passagers en 2035.
Ça veut dire que vous pensez vraiment qu'avec cette structure d'appareil que vous nous avez décrit, avec ces 2 fuselages et peut-être les passagers au milieu, on peut imaginer un jour peut-être un avion de ligne qui volerait comme ça avec de l'hydrogène ?
Oui, Oui, alors la forme sera définie par le nombre de passagers qu'il faut prendre. Ce que Airbus imagine, c'est les réservoirs d'hydrogène liquide dans le fuselage et les passagers dans les ailes.
Dans les ailes, oui.
Et puis, vous savez, il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas possible. Mais il faut faire très attention avant de dire que ce n'est pas possible. Parce qu'après coup, on passe pour un idiot. Ceux qui ont dit que l'avion des frères Wright ne volerait jamais, aujourd'hui, ils passent pour des rétrogrades qui n'ont jamais réussi à comprendre l'évolution possible. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux encourager le changement, encourager la remise en question, tous travailler ensemble pour y arriver. Et pour ça, il faut des écologistes qui tirent la sonnette d'alarme. Il faut le côté socialiste, parce qu'on a besoin de solidarité. Avec toutes les énergies renouvelables, on aura des factures énergétiques plus basses pour les gens les plus démunis. Puis il faut créer des jobs. Il faut créer des entreprises qui se développent. Et ça, dans la transition écologique, c'est la seule manière de rester compétitif en Europe et en même temps de faire du social et de l'écologique.
Bertrand Piccard, comment vous financez tous ces projets fabuleux qui, effectivement, accélèrent la transition écologique? Comment vous financez?
Par des sponsors, par des partenaires, par des enthousiastes. On avait des mécènes pour Solar Impulse, mais des partenaires aussi. Et si on a pu annoncer le projet Climate Impulse, c'est parce que ScienceCo, qui est la filiale, enfin la spin-off de Solvay dans tous les matériaux du
Solvay,
futur,
notamment pour la partie hydrogène, j'imagine.
Exactement. Alors, eux sont devenus partenaires principaux technologiques. Ils ont cru au projet. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit tout de suite la différence entre les pionniers qui veulent aller de l'avant et puis ceux qui ont peur, ceux qui résistent, ceux qui foutent le bourdon à tout le monde parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Alors, ScienceCo, puis d'autres partenaires qui sont aussi en train d'arriver, puis qu'on annoncera peu à peu, c'est ça qui nous donne les moyens d'engager des ingénieurs, d'avoir des sous-traitants, d'avoir des start-up qui se développent avec nous.
Et alors, est-ce que je disais au début de cet entretien qu'il y a beaucoup de signes un peu négatifs au cours des dernières semaines, sur la transition électrique, on trouve tous les maux du monde à la voiture électrique pour repousser le moment où on va basculer. Les pétroliers nous disent finalement une major pétrolière c'est là pour extraire du pétrole, et donc Shell par exemple hier nous dit moi je rebascule un peu, je réduis mes engagements de décarbonation. Il y a une petite musique aussi chez les politiques, notamment en France, où on voit que, en gros, comme le disait Nicolas Sarkozy, en 2010, l'écologie, ça commence à bien faire. On l'a vu avec l'agriculture. Est-ce que c'est pas décourageant, quand même, de voir que la planète brûle, Jacques Chirac l'avait dit, et c'est sûr qu'elle brûle de plus en plus vite. Mais par moments, on regarde ailleurs, encore.
Quelle image a l'écologie aujourd'hui, si vous regardez vraiment dans la population? C'est une image sacrificielle. Une image chère, une image d'activiste qui jette la sauce tomate sur les tableaux au Louvre ou qui se colle les mains sur la route. Est-ce que c'est ça qui donne envie? Non, c'est pas la décroissance qui donne envie. C'est au contraire la qualité, une économie qualitative qui se développe avec des nouvelles solutions techniques qui permettent d'arrêter le gaspillage actuel, qui permet de passer sur des énergies propres, qui permet d'être efficient. Et c'est ça qu'on oublie. Donc, il y a un très, très gros travail d'image pour l'écologie. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Et si l'écologie a vraiment cette image, cette nouvelle image qu'on doit avoir maintenant, de développement harmonieux, de meilleure qualité de vie, de meilleur pouvoir d'achat, grâce à des énergies moins chères, propres, efficientes, des nouvelles infrastructures, des nouveaux débouchés économiques, eh bien, à ce moment-là, Shell ne va jamais annoncer qu'ils vont faire moins de RSE. Ils vont au contraire dire qu'ils en feront plus, parce que ce sera la seule manière de prendre des nouveaux marchés, de se diversifier, et ceux qui négligent l'industrie de l'hydrogène vont s'en mordre les doigts.
Un dernier mot sur justement le transport aérien qui doit faire sa transition, qui a du mal parce que les technologies, on le voit bien, vous êtes en train de les explorer, sont naissantes, émergentes. On parle beaucoup des carburants de synthèse qui aujourd'hui coûtent très cher. Est-ce que c'est vraiment une solution de transition ou est-ce qu'il faut directement investir plus jamais encore plus dans l'hydrogène, par exemple, selon vous?
Je pense qu'il faut faire les deux, mais à des visions différentes, à des horizons différents, parce que si on a des avions à hydrogène en 2035...
C'est possible, ça?
Oui, c'est possible. C'est ce que planifie Airbus et moi, j'y crois tout à fait. Mais ça veut dire que les avions qui auront été vendus en 2034, ils continueront à voler pendant 30 ans.
Et donc là, il faudra mettre du carburant de synthèse.
Et là, il faudra du carburant de synthèse. Donc les deux vont se faire en parallèle. Et je rappelle quand même que l'aviation, c'est 3% des émissions de CO2 et qu'il faut arrêter de se donner bonne conscience en attaquant l'aviation plutôt que de faire ce qu'on doit faire pour le transport terrestre, pour le passage à l'électrique, pour l'isolation des bâtiments, pour les nouveaux processus industriels, toutes les pompes à chaleur, les ampoules LED. Enfin, je rappelle quand même que si la deuxième partie de la France qui utilise encore des ampoules à incandescence passait au LED, ça dégagerait assez d'électricité pour 7 millions de voitures électriques par jour.
Vraiment ?
Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas assez d'électricité, que le renouvelable ne peut pas suffire, etc. Bien sûr que ça suffit, mais il faut sortir de nos certitudes et de nos habitudes. Et c'est ça que je trouve enthousiasmant, et c'est là qu'il faut emmener les citoyens.
Il y a la moitié des gens qui ont encore des ampoules à filaments en France ?
Oui, notamment dans l'éclairage public.
Ah oui, dans l'éclairage public.
Pas forcément dans les privés, mais dans l'éclairage public, oui.
Bon, un dernier mot, la voiture à hydrogène, on a eu le déboire d'opium en France, vous y croyez aussi, en plus de l'avion ?
Alors, je pense que la voiture légère est beaucoup plus efficiente avec
des batteries.
Ouais. Parce qu'on perd beaucoup moins dans le cycle. Pour des véhicules plus lourds et pour l'industrie, l'hydrogène est beaucoup plus intéressant parce qu'on est en dehors du cycle du carbone.